23.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Voici Mario Langlois.
Maverick Bourque qui marque hier, il a repris exactement là où il a laissé en saison régulière, comme je le disais avant la pause, une performance de 4 points, 2 buts, 2 passes pour le leader offensif des Stars du Texas, qui amorçait leur série hier contre le Moose du Manitoba. Maverick Bourque, meilleur pointeur de la Ligue américaine, est avec nous en direct ce soir entre deux matchs. Bien le bonsoir, Maverick.
Bonsoir.
Maverick, t'as commencé ça en Lyon, à quoi niveau de satisfaction devait être bon pour l'équipe et pour toi personnellement hier après ce match-là?
Ouais, vraiment. Je pense que surtout cette série-là, c'est un 2-3, ça va vite. Fait que t'as pas vraiment le temps de perdre le premier match. Donc c'est important pour nous, surtout une fin de saison un peu plus difficile. Donc c'est important de bounce back, je pourrais dire.
Tu sens-tu que l'intensité, c'est vraiment là plusieurs coches ou au moins une coupe de coches plus haut que la saison régulière?
Ouais, vraiment. Je pense que peu importe le niveau de jeu, même que quand j'étais mes années au hockey mineur à aujourd'hui, peu importe le niveau, à chaque fois que tu arrives en série, le niveau de jeu il augmente toujours là.
Ça ressemble à quoi le niveau de jeu des séries dans la Ligue américaine? Toi qui as goûté à la Ligue nationale récemment, je sais que c'est un court échantillon, mais ça ressemble à quoi?
C'est un pace assez très élevé. C'est même pas comparable, je pense, qu'à à la saison régulière. C'est comparé à la nationale, c'est 2 à 2. Là. C'est game 60-60 comparé à un match de playoff. Comme tu as dit, l'échantillon est vraiment petit, donc c'est dur à comparer, mais je pense que c'est très haut calibre ce qui se passe dans les Américaines. Je pense que c'est éliminatoire.
Tu as eu une attitude exemplaire, en tout cas de l'extérieur. On n'est pas là pour tes pieds de jour en jour, Maverick, mais premier rang des pointeurs dans la Ligue américaine. Malgré le fait que, je sais que c'est un professionnel ne fait pas ça, mais tu pourrais être dans des dispositions moins positives parce que tu peux dire, hey, je devrais jouer en haut, moi je devrais jouer dans la Ligue nationale, j'ai tout fait ce que j'avais à faire. Fait, comment tu as gardé l'équilibre à travers tout ça?
Pour être honnête, c'était pas facile. Il y a des moments durant l'année que tu poses des questions, tu te demandes pourquoi, mais au bout de la ligne, j'ai une excellente saison à l'aréna sur glace. Je contrôlais pas vraiment ça. Je pense que c'est rare que des équipes ont aucune blessure après une année. Là, après 2 ans, tant mieux pour eux, mais la seule chose que je contrôlais, c'est de montrer que j'avais plus rien à prouver dans la Ligue américaine, puis c'est ce que j'essaie de faire en séries éliminatoires présentement, puis c'est ce que j'ai fait durant toute la saison.
Et est-ce que à un moment donné, tu as demandé des clarifications, soit directement ou via ton agent, pour savoir peut-être comment tu étais perçu, puis pourquoi, avoir des questions à des pourquoi, dans le fond. Des réponses à des pourquoi, pardon.
C'est un peu plus du côté de mon agent. C'est sûr qu'il y a eu des questions posées. Je pense que c'est un peu normal, mais comme j'ai dit, le fait qu'ils ont vraiment aucune blessure, puis ou presque pas, puis je pense que ça joue un grand rôle. Puis ils ont quand même pris le moyen de me donner un match. Il y a un joueur régulier qui a dû être retiré de la formation et ils m'ont donné mon match. Donc il y a un plan pour moi. Puis présentement, je pense que sont fiers de moi, sont contents de ce que je fais ici, puis ça va être à moi de maintenant de trouver que j'ai ma place à l'automne.
Ça te fait du bien qu'ils t'appellent pour ce match-là, Maverick?
Oui, vraiment. Je pense que c'était je sais pas comment je pourrais dire, un no-brainer pour moi. Je voulais avoir au moins un match, je pense que je le méritais, puis je pense que c'est bon pour mon développement d'au moins en vivre un, puis savoir ce que où j'en suis rendu un peu dans ma game. Puis non, je pense que ça a été très bénéfique pour moi. Puis comme j'ai dit, je le méritais, là, je voulais la personne.
Certain que tu le méritais. Et on fait souvent ça avec des espoirs. Des fois, on le fait goûter à la Ligue nationale. Mais on sait qu'ils vont retourner dans la Ligue américaine. On l'a vu souvent de Montréal et Laval avec plein de gars qui arrivent dans le pipeline de talent de l'organisation. Mais même si tu as joué juste un match, dirais-tu que après ça, quand t'es retourné avec les Stars du Texas, le club école, pas loin de Houston, ça a changé de quoi dans, tu sais, ce que t'es allé chercher comme data, comme information, comme lecture de jeu, juste dans quelques présences dans la Ligue nationale, ça t'a-tu aidé d'une façon ou d'une autre pour la suite?
Tu sais que, comme j'ai dit, l'échantillon était tellement petit, je pense que c'est surtout les détails, attitudes, comment que les vétérans derrière s'agissent, comment qu'ils sont avant les matchs, des trucs comme ça. C'est peut-être des petits cues que j'ai réussi à chercher ici et là, mais, sur la glace, je pense que mon niveau de performance était déjà assez élevé dans la game américaine. Je pense que c'est vraiment les détails, plus hors glace qui vont faire une différence.
Est-ce que tu surveilles les séries du club en haut? Là, il y a juste un match de jouer. Là. J'ai hâte de voir le deuxième match, mais est-ce que tu as un œil là-dessus? En parallèle
ouais.
Avec vos séries, oui?
Oui, c'est sûr que oui. C'est vraiment, j'écoute les livres. Fait que, c'est un peu comme toutes les séries, c'est sûr que j'ai un œil peut-être plus attentif sur les stats, mais non, je te dirais que je suis pas mal assis dans ma TV depuis le début des séries. Là.
Y a-t-il un joueur dont le style que tu pourrais te comparer à un joueur ou dont tu t'inspires dans la Ligue nationale, Maverick?
C'est drôle à dire, mais depuis mon année de repêchage, j'ai souvent dit un gars comme Nick Suzuki, c'est pas le plus rapide, mais c'est un gars qui compétitionne beaucoup et qui est très intelligent sur la glace. On a un pad différent, mais je pense que nos carrières juniors peuvent un peu être reliées. Je pense que c'est un joueur que je peux m'inspirer de la façon qu'il joue, puis le niveau que j'aimerais atteindre un jour dans le national.
Je sais que t'es très tenace comme Nick Suzuki et que t'as pas peur d'aller dans les zones restreintes, même si t'es pas le plus gros. Crois-tu je sais pas si j'ai les bonnes données, là, je vois 5 et 10, 185. Si tu sais, puis il y a beaucoup de gars là, dans ce gabarit-là, dans la Ligue nationale, dans les rangs professionnels. Mais tu penses-tu que ça retarde ou ça retardait un petit peu le fait que tu puisses monter en haut, qu'on t'ait laissé prendre la maturité dans ton jeu, mais la maturité physique également?
Oui puis non, je pense que comme je dis, c'est chacun son parcours. Est-ce que j'aurais été dans une autre organisation, j'aurais joué en haut avant, peut-être, j'aurais été prêt, je sais pas. Fait que tu sais, c'est des questions que tu peux pas vraiment répondre, mais je pense que les circonstances de ma dernière année junior puis mon essai d'entraînement cette année-là, puis les blessures ont fait en sorte que ça a peut-être retardé mon explosion dans la Ligue américaine. Pis c'est peut-être ça qui a fait en sorte qu'ils croient que j'ai besoin de plus de temps.
Bon, avez-vous de grands espoirs pour les séries? Quelles sont les attentes envers ton club, les Stars du Texas?
On est une division qui a été serrée. Comme j'ai dit, on a une fin de saison assez moyenne, mais on a des bons joueurs qui sont revenus de blessures. On a une équipe complète, donc non, je pense que demain, ça va être important. Puis j'ai quand même confiance. Je crois qu'on peut battre tout le monde en division, mais je pense que le Manitoba, c'est une équipe coriace, donc ça va être faut être prêt demain. Là.
La Ligue américaine, là, au fil des ans, s'est vraiment développée partout aux États-Unis, dans l'Ouest, au Texas également. Vous jouez près de Houston, mais c'est pas à Houston même. Est-ce à Houston même, Maverick, ou pas?
Non, c'est Austin.
Austin. OK, OK. Ouais, c'est quoi la Ligue américaine à Austin, Texas? C'est ça pointu? Y a-tu du monde au match en masse?
Ouais, vraiment, c'est en nombre un record. On a eu 13 sold-out, je crois.
Wow!
On a un aréna d'environ 5000 places. Donc, on a vraiment des bons fans comparé à ailleurs dans la Ligue. Des fois, si tu vois des places, c'est assez moyen, mais nous aussi, c'est très bien.
Mais Maverick, puis as-tu une mission personnelle que tu veux accomplir? Bon, là, les points parlent d'eux-mêmes, deux buts, deux passes hier, mais t'es-tu donné des objectifs qui se mesurent autrement que par les statistiques par rapport à ces séries-là avec les Stars du Texas?
Je pense qu'en série, c'est vraiment plus côté équipe. Au bout de la ligne, à chaque fois que tu as une chance de rentrer dans la série, on l'a vu avec les Panthers l'année passée, tu veux gagner. Fait que c'est de gagner le plus de matchs possible, puis espérer remporter les grands honneurs.
Ben, la meilleure des chances pour la suite, Maverick, c'est un petit coup de téléphone comme ça pour te dire que même à distance, on t'oublie pas, puis on t'a à l'œil, on te surveille, et puis la meilleure des chances pour la suite. Merci, toujours un plaisir de te parler d'ailleurs.
Ça Parfait, merci beaucoup.
Merci Maverick. Maverick Book, donc, qui était avec nous. Cet ancien de l'organisation des Cataractes de Shawinigan, notamment dans la Ligue junior majeure du Québec.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
Nous voilà de retour, deuxième heure de l'émission de ce soir. Un gros merci d'être là. Je vous lance tout à l'heure la question que je vous propose en tribune téléphonique. On va commencer ça dans l'heure que nous amorçons à l'instant, dans environ une trentaine de minutes. Juste un petit coup d'œil, un détour par la LPHF pour vous dire que de 1 à 0, le pointage a évolué. C'est maintenant 4 à 1 pour Montréal contre New York. Ça se passe à l'auditorium et il reste 16 minutes à faire en troisième période. Actuellement, au pointage, on sait que c'est Catherine Daou qui avait ouvert la marque. Christine O'Neill a enchaîné des passes à Marie-Philippe et Irene Ambrose. Catherine Dubois, son deuxième. Laura Stacey, son neuvième. Et puis, réplique de New York en toute fin de deuxième période. La réplique est venue de Ella Shelton. 4 à 1, donc Montréal. Isabelle Étier sera avec nous en fin de soirée pour nous parler de cette rencontre. Maintenant, il revient d'un beau voyage. Je sais pas si c'est un beau voyage, mais d'un voyage certainement intéressant pour quelqu'un qui se pose des questions. Hier, quand je demanderais à André Tourigny, as-tu hâte d'aller à Salt Lake? Qu'est-ce que t'as hâte de voir? Il dit, t'as-tu toute la soirée? Il me faisait la liste de tout ce qu'il avait hâte de voir. Guillaume Lefrançois, journaliste à la presse, participant régulier à Sortie de zone, est avec nous en studio. Il est venu en Bixi à part de ça. Salut, Guillaume. C'était pas trop frisquet?
J'avais mal aux oreilles. Enfin, j'ai pas mis Mathieu, que je l'avais dans mon sac à dos. Et comme un beau niaiseux, je ne l'ai pas mis. Donc, j'avais vraiment mal aux oreilles.
Tu retournes-tu en Bixi? Là, t'es arrivé vrai de
vrai. Je vais prendre le métro. Commence à faire froid, là.
Alors, commençons par ta visite à Salt Lake City. Ben, c'est une bonne idée, premièrement, d'avoir décidé d'aller là, parce qu'on est tous intrigués. C'est pas une ville, bien que c'est une ville qui a reçu, une région qui a reçu les Jeux Olympiques. On se rend compte que c'est pas une ville qu'on connaît beaucoup.
Hein. Ben, c'est ça. C'est une partie de la logique derrière la décision d'y aller, justement. C'est-à-dire, cette ville-là, nous, justement, dans le milieu des médias sportifs, on connaît tous un peu des gens qui ont été, notamment à cause des Jeux Olympiques, justement. On a tous des collègues, des amis qui ont été. Mais, monsieur, madame, tout le monde, mis à part les gros fans de ski, qui ont pu aller dans les stations de ski de la région. Je peux pas dire que je connais beaucoup de monde. J'ai quelques amis qui ont vu des parcs nationaux. Il y a le parc national Bryce, entre autres, le Bryce Canyon, qui est c'est des trucs absolument magnifiques, mais là, t'es à 3-4 heures de Salt Lake City. Là, c'est rien dans la ville même. Donc, ça reste une ville qui est quand même relativement mystérieuse. C'est une ville qui a longtemps eu une seule équipe de sport professionnel. Là, maintenant, bon, ça s'est grossi avec le soccer, mais pendant longtemps, c'était seulement le Jazz de l'Utah. Donc, tu sais, c'était pas une ville qu'on était appelé à connaître beaucoup. Donc, il y avait quelque chose quand même à faire découvrir aux gens d'ici en se rendant là-bas.
La population de la ville même, c'est très peu. Là, je pense qu'on parle de 220 000 ouais. personnes, grosso modo. Sauf que, comme toutes ces villes-là, il y a la metro area, qu'on appelle là, la région métropolitaine. Là, on parle plus de 2 millions et plus. Hein?
Ça dépend des définitions, mais disons, la principale que j'ai vue, c'est 1,2 million quand okay, même, comme bassin de population fait de la région.
Fait que probablement que c'est la troisième couronne quand on dit que ça grimpe, parce que j'ai vu 2,7 quelque part, on comparait Denver
Il y a plein de façons de le mesurer.
On inclut Sherbrooke dans si on transpose. Mais
dans l'Utah en général, c'est 3,7 millions. Donc, tu sais, ça reste que c'est pas... Je veux dire, plus qu'on parle de Phoenix, parce qu'ils arrivent de là, le marché de Phoenix, comme la région de Phoenix, c'est 5 millions. Alors, seulement dans la ville, dans le marché de Phoenix, c'est plus de monde que dans l'Utah au grand complet. Donc, tu sais, c'est sûr que il n'y a aucun doute, la Ligue nationale va dans un plus petit marché, mais elle espère que ce soit un marché plus robuste.
Quelles étaient les questions que tu avais en tête en arrivant là-bas?
Ben c'était beaucoup, premièrement, c'est ça, d'avoir un peu une idée de à quoi se ressemble cette ville-là, à quoi ressemble l'aréna aussi, c'est quoi leur situation d'aréna. Tu sais, Gary Bettman, dans sa conférence de presse, à un moment donné, il a fait une petite blague là, en disant...
pas de drama.
Ben, non, exact, no arena drama, ben, on en a vécu assez comme ça, puis c'est donc, tu sais, alors à quoi ça ressemble cette aréna-là, est-ce qu'il va y en avoir du drama? On verra, mais c'était assurément un des trucs que je me demandais. Ensuite de ça, à quoi ressemble justement l'intérêt pour le hockey dans cette ville-là? C'est sûr qu'il n'y a pas un million de façons de le mesurer à ce temps-ci de l'année quand il n'y a pas de hockey là-bas, puis là, le hockey mineur ralenti. C'est pas un gros marché de hockey mineur non plus. Mais tu sais, moi, tout le matin que j'étais là, le vendredi matin, qui était le matin de la conférence de presse, ben je me suis branché sa radio sportive. Ce qui est vraiment drôle, j'ai syntonisé la radio à 9h40 le matin. Et là, c'était une entrevue avec l'entraîneur des alliés rapprochés de Brigham Young University. Et là, je me suis dit, oh mon Dieu, OK, donc clairement, ça fait pas jaser le hockey. L'émission a continué et finalement, c'était à peu près le seul contenu football qu'il y a eu dans l'émission. Ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu sur le hockey.
Fait que la nouvelle a fait boom de l'arrivée du club là-bas. Là.
Oui, vraiment. C'est plus que ça à quoi je m'attendais. C'est sûr que tu sentais que les animateurs n'étaient pas nécessairement les plus grands connaisseurs de hockey, mais la nouvelle avait capté leur attention. Ils en parlaient. Alors, les amateurs de sport qui écoutaient ces émissions-là dans leur retour vers la maison, ben ils se sont fait parler du hockey et ils étaient clairement au courant de ce qui se passait.
Qu'est-ce que tu as pensé de l'aréna qui abrite le Jazz de la NBA avec une capacité réduite, même plus petit qu'à Winnipeg, je pense. Hein?
Ça dépend des définitions encore là. Premièrement, c'est un bel aréna là, ça. Je veux dire, tu sais, c'est pas nécessairement récent, mais c'est quand même très bien. Je trouvais que visuellement ça sortait bien, ça avait pas l'air de toute façon, ça date pas non plus de 50 ans, là, c'est correct. Mais bref, c'était bien. Le nombre de places, c'est que c'est 12 000, on a beaucoup vu passer le chiffre de 12 000. 12 000, c'est qu'il y aura 12 000 billets avec des vues qui ont appelé parfaites, c'est-à-dire des vues qui sont pas obstruées, tu vois toute la glace, tout est beau. Mais dans les faits, ils vont ouvrir à 16 200 de capacité. À 16 200, t'es quand même à plus qu'à Winnipeg.
Ah, là, quand même?
Winnipeg, c'est 15 000. Donc, 16 200...
Ah, j'étais déjà en erreur dans ce cas-là.
Mais
moi,
ça veut quand même dire que le quart des billets, ça veut dire qu'il va avoir la vue obstruée. Alors là, dans quelle mesure ça sera obstrué, il faudra voir. On a tous hâte, je pense, de voir les photos des premiers matchs préparatoires, comme on le voyait dans le temps à Brooklyn, quand les Islanders avaient déménagé au Barclays Center. Et que justement on voyait ces fameuses photos de fans qui disaient ben regardez, on voit pas du tout le coin, on voit pas le but, donc on verra à quoi ça va ressembler. Et le but, c'est de se rendre à 17 500 dans 2 ans. Alors là-dessus, quelle proportion on va avoir?
Ils vont rénover par
l'endroit? Oui, exact, c'est ça. Ils vont vraiment réaménager.
On parle pas de nouvel amphithéâtre?
Non, pas pour le moment, non. Ils veulent vraiment rester au centre-ville. Par contre, on sent qu'il y a une certaine... On sent qu'il pourrait y avoir un petit bras de fer avec la ville à ce sujet-là. Parce qu'à un moment donné, le propriétaire de l'équipe, Ryan Smith, dans son point de presse, il a dit, vous savez, ça serait vraiment facile pour moi de simplement m'en aller au sud de la ville parce que bon, il y a un terrain, le propriétaire détient un terrain là-bas. Puis il dit, là-bas, le terrain, il est prêt à construire, c'est plat. Ça serait facile d'aller là, puis ça me coûterait beaucoup moins cher qu'une parcelle de terrain au centre-ville. Donc, ça serait facile, mais je veux rester au centre-ville parce que c'est là qu'une équipe doit être, et puis on veut que ça fasse partie de l'expérience du centre-ville, on veut que ça redynamise le centre-ville. Alors, tu sais, il a quand même fait un plaidoyer pour le centre-ville, mais il a quand même rappelé qu'il y avait cette option-là d'aller au sud de la ville. Alors, faudra voir. Ce pourquoi je crains un bras de fer, c'est qu'en mars, le propriétaire avait fait une sortie dans les médias, justement, en disant, il faut réinventer le centre-ville, il faut revoir l'expérience, il faut investir dans notre centre-ville pour y redonner de l'amour. Alors, évidemment, quand un propriétaire privé dit ça, c'est pas nécessairement que son argent à lui que ça implique. Ça peut être l'argent de la ville aussi. Il est question d'une hausse de taxes pour financer ça. Alors, c'est pour ça que c'est pas, tout est pas...
Il y a des enjeux.
Il reste des enjeux.
Je souhaite pas de drama, mais on sait jamais.
C'est ça, il en souhaite pas.
Le drama s'invite parfois là où on ne l'attend pas.
Exact. Ce qui joue en sa faveur, par contre, c'est qu'il semble être près du pouvoir. T'sais, à la conférence de presse, la mairesse de Salt Lake était là, la mairesse du comté était là, le gouverneur était là, le président de Brigham Young University, qui est la principale université de l'Utah, était là aussi. Et dans une société, quand même, c'est un petit monde de l'Utah. Alors, le fait d'avoir toutes ces poids lourds-là, locaux, s'en disait long quand même sur l'influence de Ryan Smith. Alors, tu sais, il part sur un meilleur pied que ce qu'on a vu en Arizona, où le propriétaire se chicanait avec à peu près chaque ville qui existait.
Je sais pas si à travers tout ça, tu as eu le temps de regarder le nouveau documentaire d'Amazon, Saving Sakic.
Ça a l'air fascinant.
Écoute, c'est pas long, c'est un documentaire d'une cinquantaine de minutes. Fait que tu sais, c'est pas une affaire, une série de 4 épisodes. Ça s'écoute assez vite, là. Une heure l'éthique, puis boum. Puis, mais il y a de quoi d'intéressant. Il y a de quoi, j'ai trouvé, premièrement, ça nous rappelle le départ des Nordiques. Ça, c'est bien triste. Qu'est-ce que tu veux? Je vais pas tourner le fer dans le plaid. Mais par rapport à l'arrivée de l'avalanche là-bas, ils gagnent en partant, mais ils sont dans un vieil amphithéâtre. Puis, ils savent bien quand arrive l'offre des Rangers pour venir leur shipper sa kick, puis en envisageant le futur. Puis, ils ont laissé partir leur club de basket, eux autres. Non, pas de leur club, pardon, mais un joueur étoile de leur club de basket. Puis, ça a détruit l'enthousiasme pour l'équipe dans le temps, pour les Nuggets, pardon. Et là, ils se sont dit, le même propriétaire, Charlie Lyon, il dit, quand le cas sa kick est arrivé, il dit, je peux pas. Puis le maire avait vécu ce qui est arrivé à cause du manque de revenus avec un amphithéâtre désuet, que le club avait été obligé de laisser partir leur star dont le nom m'échappe, des Nuggets. Fait que le maire, c'est là que le maire, parce que ça niaisait, puis il y avait la game de relations publiques, le maire, tu sais, tu veux pas te brûler auprès de tes électeurs, mm-hmm. tu donnes cuit dans le bec à l'équipe sportive, etc. Fait que, mais à un moment donné, c'est le maire qui a comme un peu, si je me souviens bien, là, j'ai regardé ça la semaine passée, mais qui dit non, je peux pas. Donc, ce club-là qui est dans ma ville, on peut pas laisser partir la vedette de ce club-là comme on a vécu avec le basket parce que c'est démoralisant, c'est pas le fun. Fait que, tu sais, il y avait un bon lien avec le propriétaire, mais il faisait pas le pas à faire pour le nouvel amphithéâtre, puis ils l'ont fait. Puis on sait, on connaît la suite, l'Avalanche est revenue, a gardé sa équipe, puis a gagné d'autres championnats. Fait que, ce club-là qui s'appellera plus les Coyotes, ce n'est plus les Coyotes, c'est plus la même entité. J'ai hâte d'avoir entendu parler de ça, quel nom qu'ils pourraient avoir là-bas, mais ils pourraient gagner peut-être rapidement. Je ne dis pas qu'ils vont gagner la coupe en arrivant, mais ils ont de la marge sous le plafond salarial. Ils ont des bons jeunes. Exact. Ça pourrait être une équipe qui, ça change de poil assez vite, là.
Oui, tout à fait. Par contre, pour ça, va falloir qu'ils envoient le message très rapidement qu'ils sont là pour longtemps. Parce que, tu sais, les Coyotes, oubliez, dans les dernières années, les Coyotes, il n'y a personne qui signait de contrat à long terme là-bas, là. Je veux dire, le dernier, ça a été pas mal Clayton Keller. Ben, je dirais, à part ça, il y avait à peu près rien. Puis d'ailleurs, tous leurs défenseurs sont sans contrat. Il y en a là-dessus qui sont joueurs autonomes avec compensation. Donc, l'équipe a encore les droits, mais ils n'en ont pas. Donc, c'est pour bâtir, il faut quand même que, si tu veux attirer de bons joueurs, il faut que tu leur vendes l'idée qu'ils seront là à long terme. Parce qu'évidemment, personne ne voulait aller en Arizona parce que tout le monde savait bien que il y avait un déménagement qui était possible. Et puis là, ben, on se ramasse où, là? Puis est-ce que je vais avoir le goût d'habiter dans cette ville-là? Là?
Vraiment.
Donc ça va être quand même une partie importante du travail à faire, mais c'est sûr qu'ils partent avec un bon noyau de jeunes, ça, il y a aucun doute. Alors, il faudra voir, là, je m'attends pas non plus à de grands succès immédiats, mais ils sont sur la bonne voie. Puis oui, c'est sûr que ça prend un certain succès sur la glace pour réussir ta première impression. Je pense que on est tous d'accord que Vegas est le meilleur exemple de ça, à quel point un bon produit sur la glace. Tu sais, t'as beau avoir le meilleur marketing au monde, tout ce que tu veux, ça te prend un produit sur la glace qui va être divertissant.
Absolument, attrayant. Jake DeBrusk, parenthèse, Jake DeBrusk a marqué son troisième des séries et donne les devants en troisième période aux Bruins contre les Leafs. Je sais pas c'est quoi ta prédiction dans cette série-là, mon Guillaume?
J'avais les Bruins dans cette série-là.
Donc, en tout cas, c'est pas fini. Mais Guillaume Lefrançois qui est avec nous de la presse et du podcast Sortie de zone, je reviens sur la dimension sociale de Utah, ben c'est ça, c'est ben Salt Lake City, ben Utah c'est l'État, pardon, Salt Lake City c'est la ville, excusez-moi.
Mais donc, le club, on connaît pas le nom, mais ce qu'on sait c'est que le club va s'appeler Utah.
Et okay, non
pas
comme Salt Lake le Jazz City. De Utah.
Exactement, okay. Ça, le propriétaire il l'a dit, là, ça va être le peu importe quoi de l'Utah et non pas de Salt Lake City.
D'accord, je vais revenir donc à la dimension sociale, tu as parlé d'une ville mystérieuse, d'un État mystérieux. Je pense que c'est associé au fait qu'on sait que c'est y a une grosse concentration de Mormons là, qui est installée là-bas. Fait que qu'est-ce que tu as pu
découvrir? En fait, ce fait-là fait en sorte qu'il y a toutes sortes de préjugés que les gens se font, de préconceptions, peu importe. Mais quand t'arrives, tu te rends compte qu'il y a quand même des trucs relativement... c'est quand même une ville relativement moderne. Normale et moderne comme partout
on
ailleurs.
On est pas tous avec chevaux à calèche. Là,
ben non, c'est avec des bars puis des restos puis tout ça. Tu sais, parce que je précise les bars spécifiquement parce que les Mormons doivent s'abstenir de consommer de l'alcool, du moins ceux qui veulent vraiment respecter à la lettre la région, doivent s'abstenir de consommer de l'alcool. Alors, c'est sûr que en partant, tu dis, bon, ouais, OK, est-ce que des bars là-bas, tout ça, ça. Puis, mais oui, il y a des bars. Là, c'est ça, c'est une ville normale. Il y a des bars, des microbrasseries, des tavernes de, des tavernes moins recommandables.
Exactement.
C'est ça, il y a tout ce qu'on veut. Mais tu sais, la mairesse, d'ailleurs, a fait une blague dans la conférence de presse en disant on est la 32e équipe dans la ligue. On va être la 32e équipe dans la ligue pour la vente de bière. Tu sais, parce que ça reste qu'il y a une partie de la population qui boit pas. Mais je veux dire, c'est ça, c'est une ville que c'est bars, c'est restos, tout ça. Là, c'est sûr que c'est pas, c'est, je vous mentirais pas, là, c'est pas New York, c'est pas la Nouvelle-Orléans. Mais quand même, là, je veux dire, ça dégage un esprit normal. Je veux dire, c'est une économie qui est en croissance. Aux États-Unis, ces marchés-là qui sont en croissance, souvent, ben, c'est que ça attire des gens qui viennent des autres États, qui viennent d'ailleurs au pays. Donc, ça diversifie quand même la population, ça diversifie le marché. Quand je parle de ça, je pense à Nashville, entre autres, qui est une autre ville aussi, oui. Parce qu'il y a énormément de gens des autres États qui sont venus et ça donne un espèce de mélange dans la ville. Alors, tu sais, Salt Lake City avec la croissance de l'économie de l'Utah, ben, ça donne ça.
Par ailleurs, les noms qui sont suggérés actuellement, selon ce que Kevin vient de me transmettre, c'est que, je sais pas si tu me diras quel est ton préféré, le Utah Mammoth, le Utah Ice, Utah Yeti, je sais pas si je le prononce comme il faut en anglais, là, mais vous comprenez, le Utah Venom, le Utah Fury, le Utah Blizzard, Utah Outlaws et le Utah Hockey Club ou Utah HC. Oui. Un peu à l'européenne ou au soccer.
Moi, c'est lui mon préféré.
Ah oui?
Oui. Oui, oui, ça ferait vraiment différent, distinctif. Également, en ayant un nom comme ça, ça te donne une page blanche pour le logo. T'es pas obligé d'avoir, tu sais, si t'es le Venom ou les Grizzlies ou peu importe, mais ça te pousse vers une direction en termes de logo. Mm-hmm. Le Utah HC, tu peux mettre ce que
ça
tu veux.
Ça fait une première dans la Ligue nationale.
Absolument, absolument. Mais moi,
le club de hockey canadien, c'est un peu ça, c'est canadien HC.
Oui, exact, c'est ça, mon on l'utilise pas comme ça, mais exactement. Moi j'aimerais bien ce petit cette distinction là, ça serait le seul club comme ça. Non, moi franchement c'est mon préféré, le Utah HC.
Guillaume, on va voir. Tu avais prédit un balayage des Canucks contre les Prédateurs, mais il y a bien sûr Damco, etc. Mais considérais-tu comme une surprise totale que Nashville élimine Vancouver en première ronde parce qu'ils ont bien joué dans les deux premiers matchs et 1-1?
Tout à fait. Ben, c'est sûr, cela dit, si Damco rate le reste de la série, c'est quand même un gros facteur. Ça reste que je pense que les Canucks ont assez de munitions à l'attaque, ont assez bonne défense pour pouvoir se survivre temporairement. Le sans Thatcher Demko. Oublions pas que Casey DeSmith, l'ancien du Canadien, très brièvement, a pas eu une vilaine saison là, non plus à Vancouver. Là, donc je pense qu'il est capable. Je dis pas que tu gagnes la coupe avec Casey DeSmith, mais je pense qu'avec ce qu'il y a comme club devant lui.
Juste pour rire, avoue que c'est drôle, tu sais, Casey DeSmith, il y a le but de Nashville. Les gens encouragent DeSmith, tu sais, puis juste entendre l'audio.
Alex Carrier. To the red line and in and written to the boards by Elias Lindholm. Hughes blows an edge and
it's go KC.
Connor Garland picked up at the wall from the left point. Philip Forsberg score.
C'est drôle, pareil.
Ça tue le party. Hein?
Ah oui, ça te coupe une sifflette. C'est pas bien long. Alors, qui avais-tu prédit pour ultimement qui va se rencontrer en finale, Guillaume? Conclusion.
En début de saison, j'avais les Hurricanes. Alors, j'aime toujours.
Ils jouent. On a une bonne équipe. Kuznetsov, c'est pas une méchante acquisition non plus.
Je suis très, très étonné, honnêtement. Visiblement, il avait besoin d'un nouveau départ. Il y avait peut-être que le temps qui a passé à l'extérieur de la glace pour traiter ses problèmes, ça a fonctionné. Là, on sait qu'en santé et en pleine possession de ses moyens, c'est tout un joueur. Donc, oui, franchement, mais c'est ça. Non, je trouve qu'ils ont vraiment, vraiment une belle équipe équilibrée. T'ajoutes Jake Guentzel, c'est sûr. Ce qui leur manquait peut-être, c'était des joueurs, c'est ces fameux joueurs-là qui excellent en série. Jake Guentzel, c'en est un. Puis c'est pas comme un plombier qui élève son jeu en série. Là. C'est tout un joueur, mais qui est capable de maintenir son rythme en série puis même de l'augmenter. Alors, tu sais, c'est vraiment super intéressant comme acquisition.
J'ai hâte de voir combien d'équipes vont courir après si les Hurricanes vont réussir à le signer.
Ouais.
Puis j'ai hâte de voir qui Julien Brisebois a dans la tête de mettre sous contrat s'il laisse aller Stamkos.
Ouais, absolument, mais regarde, souviens-toi de la dernière fois que Stamkos aurait négocié son contrat. Il avait signé ça le 29 juin. à 48 heures de l'ouverture du marché des joueurs autonomes. Souviens-toi, c'était dans la demi-heure folle de l'échange de Taylor Hall et de l'échange de Piqué Subban. Toute la Ligue nationale, là, tout le monde s'attendait à ce moment-là à ce que Stamkos devienne joueur autonome. Donc, ça avait été tout au moment. Bref, c'est simplement un rappel que même si on arrive en juin et que Stamkos n'a pas de contrat encore, on a vu par le passé que rien n'est impossible.
J'oubliais quelque chose, mais je dois faire une pause. J'ai une autre question à te poser avant de te laisser filer, puis elle concerne Jean-François Houle et son avenir.
Oui.
On vient tout de suite.
Jusqu'à minuit, le réseau Cogeco vous présente les amateurs de sport. Voici Mario Langlois.
On est de retour encore quelques minutes avec Guillaume Lefrançois avant d'aller à Guillaume Latendresse et aux appels. Guillaume, l'avenir de Jean-François Houle, il a manifesté très clairement son désir de rester en selle avec le Rocket de Laval. C'est difficile d'évaluer le travail d'un entraîneur de la Ligue américaine selon le talent qu'il a à sa disposition, les rappels, la volonté de la haute direction. Bon, ils ont manqué des séries cette année, ils avaient participé aux séries des deux dernières années, mais on dirait que, en tout cas, le silence de l'organisation, le fait qu'on laisse faire sa conférence de presse dimanche. Tout ça, on dirait que ça sent le changement. Comment t'interprètes ça?
Effectivement, ça je trouve pas qu'il y a beaucoup de signaux qui laissent croire à un retour de Jean-François Houle. Tout ça peut être très très subjectif, mais tu sais, le fait qu'il laisse finir la saison pas de contrat, qu'il arrive en point de presse, qu'il avait pas grand-chose à dire finalement sur l'état des pourparlers, ça me
laisse
croire.
Question posée à Ken Hughes au bilan du Canadien, ça a été réponse.
Oui, bien fallu, c'était moi qui l'a posé, puis il a fallu que je le relance pour qu'il réponde, parce qu'il y avait deux parties dans ma réponse, puis Jean-François. Donc, tu sais, oublions pas qu'il a été engagé par l'administration précédente, par Marc Bergevin. Oui, il connaissait quand même Kent Hughes, via le petit monde du hockey, il se connaissait quand même, mais ça reste que, c'était pas de leur embauche. Je m'expliquerais mal que ce soit la fin pour lui. Tu dis que c'est dur d'évaluer un entraîneur, mais...
C'est pas si dur que ça non plus.
On le sait, là, sous Marc Bergevin, le Club École, ça a été un échec après l'autre. Ça a vraiment été très, très difficile. Le Club École n'avait pas de résultats collectifs et ne fournissait pas de joueurs pour le Canadien. Ça a commencé à changer sous Joël Bouchard, qui a quand même formé Jake Evans, Harvey Pinard, Kaden Primo. T'sais, c'est tous des gars... qui sont passés sous Joël Bouchard, qui ont fini par s'établir dans la Ligue nationale. Donc, ça va. Côté collectif, Joël Bouchard, sa période est dure à évaluer parce que c'était les années de la COVID, donc deux années où il n'y a pas eu de série, tout simplement. Alors là-dessus, c'est dur à évaluer. Mais Jean-François Houle, sa première année, il amène l'équipe en demi-finale. Deuxième année, il se rend en ronde de qualification, donc il se rend quand même en série, même s'ils ont perdu tout de suite. Et cette année, ils ont perdu à l'avant-dernier match. Ils ont été éliminés à l'avant-dernier match. Tu dis là, avec les rappels, les blessures, tout ça. N'oublie pas que le Canadien de Montréal, les deux années précédentes, avait été la pire équipe de la Ligue nationale pour le nombre de blessés. Alors, quand t'as autant de joueurs comme ça qui ratent des matchs sur des blessures, ben c'est de la pression sur ton club école. Ça veut dire que ton club école se fait vider continuellement. Cette année, ça a été mieux, mais le Canadien a quand même été au troisième rang. Si on regarde le classement à l'envers, là, je veux dire, il y a seulement deux équipes qui ont eu plus de matchs perdus à cause de blessures que le Canadien. Il y en a quand même eu beaucoup, tu sais, t'as Kirby Dach qui a raté quasiment la saison au complet en partant. Tu sais, 80 matchs ratés, t'as eu plusieurs autres joueurs. Dvorak aussi a raté les deux tiers de la saison. T'en as eu des blessures à gauche, à droite. Alors, encore de la pression sur le club école. Et malgré ça, donc Jean-François Houle, le Rocket, réussissent à se battre pour les séries et réussissent à former des joueurs pour le grand club. Jaden Struble, tu sais, on a même donné un coup de pouce à Armia, à Jack Eye.
Ça dépend de la qualité de ce que tu repêches. Tu sais, les gens regardaient le travail de Sylvain Lefebvre, vous l'évaluez sévèrement, mais quand tu regardes le nombre de fois que le Club École a raté des séries, tu peux pas juste évaluer ça sur le fait qu'il fasse ses séries ou non.
Non, exactement. Mais ça va dans les deux sens.
De ce qu'il y a dans les mains c'est aussi. Ça. Mais sans la briller, mais tu sais...
Mais ça va dans les deux sens. Oui, la qualité de ce que tu repêches, mais après ça aussi, justement, à quel point tu les développes bien, tu les encadres bien.
Mais tu peux pas extraire de l'eau d'une roche au risque de briller. Des fois, on s'attend peut-être qu'on va faire des miracles avec des mauvais choix, mais qu'est-ce que tu veux?
Mais non, c'est ça, exact, en plein ça. Mais tu sais, après ça, je vous ai dit, Brandon Schaubo, c'est quand même un joueur que, oui, c'est un choix de deuxième tour, mais c'est un gars qui a fait 4 ans au collège, qui a pas nécessairement été un joueur dominant au collège, à l'université, puis là, ben, arrive dans le pro, pouf, super belle transition, puis après 20 matchs à Laval, il est déjà en haut dans la Ligue nationale, puis il y avait avec là aussi une belle transition. Joshua Roy, c'est un choix tardif, là. C'est un choix de cinquième tour, Joshua Roy. Je comprends que c'est un gars super talentueux.
Un faux choix de cinquième ronde?
Ben, faux choix, mais il y a quand même des équipes qui ont passé souvent leur tour quand est venu le temps de le repêcher, ils l'ont pas repêché. Je veux dire, oui, il y a du talent, mais
il y a beaucoup d'incompétents que ce gars-là glisse en cinquième ronde. Ben, il y a eu une mauvaise année, son année de repêchage, je comprends.
Oui, ouais, mais je peux pas croire qu'il y a 31 équipes incompétentes dans la ligue non plus, là. Je veux dire, à un moment donné, c'est ça. Il y a des raisons pour lesquelles il y a des
sorties. Tout le monde, non, les autres, ils veulent pas, il doit y avoir quelque chose.
Ouais, peut-être.
Le petit gars
s'est pris en main, puis il a été visiblement bien encadré, puis ça fait en sorte qu'il paraissait bien dans la Ligue nationale. Donc, tu sais, il y a quand même eu plein d'exemples comme ça de gars qui, franchement, ça a bien été. Puis maintenant, il faudra voir avec Logan Mayo ce qui va arriver. Je veux dire, il y a eu quand même une bonne première saison recrue. C'est pas parfait, il y a du travail à faire, mais ça a bien parti pour lui. Puis c'en est un que son parcours n'a pas nécessairement été facile. Donc, tu sais, je trouve que quand même que Jean-François Hull s'est très bien débrouillé avec ce qu'il y avait comme ressources.
Ça, ben, moi aussi, de l'extérieur, je pense qu'il a fait un bon job. J'espère que c'est pas avec le Canadien qui va se replacer ailleurs. Ça déboule vite dans le match Toronto et Boston. Et donc, DeBrusque avait marqué pour donner les devants. Morgan Riley, par la suite, à 11-23, vient créer l'égalité. Et là, c'est pas encore sur le site de la Ligue, parce que ça vient d'arriver, mais Boston reprend les devants. 3-2, il y a un gros plan sur Brad Marchand, puis il y avait un gros plan sur Max Domi. Je sais pas si c'est lui qui l'a échappé, mais bref, j'ai pas le détail, mais juste pour vous tenir à jour par rapport à ça. Et je complète avec le Canadien de Montréal. À quoi tu t'attends de Kent Hughes cet été? D'ici, mettons, là, sur toutes les facettes. Joueur autonome, transaction, là, d'ici le repêchage, puis un peu après le repêchage avec le marché des joueurs autonomes. T'attends-tu à beaucoup d'additions d'ici le camp d'entraînement?
Je m'attends, en fait, comme les deux derniers étés, je m'attends encore à une transaction pour un joueur relativement jeune. Vraiment, les joueurs autonomes avec compensation, là, comme ce qui était Kirby Dach et Alex Newhook les deux derniers étés, c'est un terreau fertile pour des transactions, surtout pour des équipes comme le Canadien qui ont besoin justement d'aller chercher des jeunes, qui ont également des espoirs et des choix de repêchage à donner. Donc, je m'attends à une transaction dans ce genre-là. Je m'attends pas nécessairement à beaucoup de bruit sur le marché des joueurs autonomes pour le Canadien. Je trouve que Kent Hughes a donné beaucoup d'indications à son point de presse de fin de saison à l'effet que la croissance...
Moi, j'ai pas de trouble avec ça. Fait que tu crois pas à ça, ceux qui essaient d'agiter la rumeur d'un Stamkos ou d'un vétéran qui viendrait? Ça va... Moi non plus. Ça m'excite pas. C'est pas de quoi qui m'allume.
Je penserais pas.
Il arriverait en ville. Ça ferait pas du Canadien un pire club, mais tu sais, c'est le contraire.
Ça aiderait, mais j'ai l'impression que l'organisation se voit pas encore là, se voit pas encore rendu là. Puis, si l'organisation a le moindrement des doutes, ben c'est sûr que ces joueurs-là, plus âgés, vont eux-mêmes avoir leurs doutes. Tu sais, il y a des gars dans ces tranches d'âge-là qui veulent pas gagner la Coupe Stanley dans 5 ans. Là.
Ils comme Martin Saint-Louis dans les tranches.
Oui, exact. Ça, c'est, il y a des gars comme ça qui peuvent pas attendre 5-6 ans avant de gagner. Là. Ils veulent avoir une chance cette année. Le Canadien n'aura pas de chance de gagner la Coupe Stanley cette année. Je veux dire, s'ils se battent pour les séries,
Non.
Mais c'est ça, c'est pas une équipe aspirante encore. Alors, c'est plus difficile dans ce temps-là d'aller recruter des vétérans, à moins que t'en aies un qui croit vraiment la vision à moyen terme, là, disons, mais c'est pas évident.
Quand tu regardes, puis c'est juste la première ronde, il y a juste 2 matchs à jouer, 3 maintenant avec les séries de ce soir, tu considères-tu que le Canadien est loin de ce niveau-là ou pas si loin que ça?
Je trouve qu'ils sont loin, oui. C'est surtout, moi, c'est vraiment beaucoup dans le tempo du jeu que je trouve qu'on voit l'écart. En même temps, c'est sûr que ces équipes-là aussi jouent avec plus de tempo ce soir que...
Quand
c'est
Exact.
Mais je veux dire, disons que j'ai jamais vu le Canadien jouer avec un tempo comme on le voit depuis le début des séries. Il y a certains clubs, je trouve que ça frappe plus. Je me souviens, je regardais même Vegas avant même les séries. Là, je regardais des matchs des Golden Knights en fin de saison et je trouvais qu'il y avait une espèce de rapidité d'exécution qui serait dur
à traverser aussi.
Ouais,
hein?
C'est ça, qui serait très dur à côté pour le Canadien dans son état actuel. Faudra voir dans un an. Là, c'est sûr qu'avec tous ces jeunes-là que dans un an auront 80 matchs de plus derrière la cravate écoute, ben, regardez, on verra ce que ça donne. Mais à l'heure actuelle, je trouve que l'écart paraît quand même. Là.
Ben, Guillaume, merci de ta belle visite, mon ami. Et on continue de te lire avec assiduité dans la presse et de t'écouter avec nos camarades de sortie de l'onde. Puis,
merci, merci.
Bon retour à la maison avec ta tuque, si jamais tu peux être blessé.
Non, ça va être en métro.
Merci beaucoup, Guillaume.
Merci de m'avoir invité, Mario.
Bye bye, Guillaume Lefrançois. On vient dans un instant.
Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
Comme je l'annonçais dès le début de l'émission, on s'entretient ce soir avec les quatre entraîneurs des quatre équipes toujours en vie dans la LHJMQ alors qu'on atteint le carré d'as. Les séries demi-finales qui commencent demain. Demain, Bécomo qui va recevoir la visite du Cap-Breton. Et d'ailleurs, à tout seigneur, tout honneur, des meilleurs en saison régulière. Et avec nous, leur entraîneur, Jean-François Grégoire, du Drakkar de Bécomo. Bien le bonsoir, Jean-François.
Bonsoir, Mario.
Jean-François, aimes-tu le cheminement effectué par ton club depuis le début des séries? Considères-tu que tu as vu de ton club tout ce que tu voulais voir ou il y a encore des cases à remplir pour la prochaine ronde?
Je suis satisfait, mais il y a encore des cases à remplir quand même là, pour la prochaine ronde. Je suis très, très content de la première ronde contre Charlottetown. La deuxième ronde contre Batters. Batters se sont très, très bien battus. Il y a des petits moments où ce que je trouvais que on avait un petit peu baissé notre garde puis on jouait un petit peu plus vers l'offensive versus les concepts à respecter là, pour les séries éliminatoires, mais je pense que ça c'est des choses sont normales junior, mais on est très très pointilleux ici là, avec notre gang là, fait que mais en général on a très très bien fait là.
Mais là entre toi et moi Jean-François là, quand tu balais deux séries de suite là pour garder tes gars sur le qui-vive, faut que tu j'imagine que faut t'aider l'imagination un peu parce que doit pas être évident de trouver d'avoir des choses, tu sais, je dirais pas à leur reprocher, mais tu comprends ce que je veux dire?
Ouais. Non, c'est parce que tu sais on a tout le temps été dans le présent puis on essaie de se tenir loin quand même des résultats. T'sais, oui, on a gagné les matchs. Mais tu sais, à l'intérieur de chaque match, il y a des actions. Puis on veut faire en sorte là, que nos comportements à l'intérieur de chaque concept soient vraiment là à 100% exécutés. Là. Mais quand je dis ça, je suis très, très pointueux, je le sais, là, mais j'ai l'image aussi dans la tête là, quand je parle de ça.
C'est la job d'un coach. T'as un petit peu la recherche de la perfection, si la perfection est atteignable.
Effectivement. Je connais le groupe, puis... tu sais aussi là, je fais un petit peu référence là, à la fin de match où on était en contrôle pour le match numéro 4, puis on a quand même accordé dans les derniers matchs là 5 puis 4 buts là, c'est pas vraiment l'image de notre jeu collectif défensivement. Mais tu sais, comme je dis là, il y a plein de choses qui expliquent ça, puis je suis très, très positif présentement.
Ben, ça m'amène à une question que je t'ai posée avant qu'on entre en onde, mais je vais te la poser pendant l'entrevue, parce que quand on regarde ça de loin, je me disais, je sais pas si Jean-François trouve que son club a connu assez d'adversité dans les deux premières rondes, puis tu sens-tu qu'elle est prête à y faire face si l'adversité se présente contre le Cap-Breton?
Ben, je pense que oui, parce que justement, c'est là le fait là d'avoir eu à défendre la fin de match contre Batters qui ont été très très acharnés, ils voulaient pas ils ont pas abandonné, c'est ça, crédit à eux. Ils nous ont amené ils ont poussé à la période de prolongation pour le match numéro 4. Je trouve un peu que ils ont tellement attaqué, c'est normal parce qu'ils jouaient avec l'énergie du désespoir, puis on se trouve un petit peu sur les talons, des choses qu'on n'était pas habitué nécessairement de voir, mais c'est ça qu'il faut vivre, c'est ça qu'il faut voir, puis j'ai vraiment, vraiment apprécié après ça l'état d'esprit qui a changé pour la première prolongation. On a joué vraiment là, pour aller gagner le match versus pour pas le perdre. Puis c'est sûr qu'au niveau de l'adversité, au niveau des victoires, défaites, ben on n'a pas de défaite, fait qu'on pourrait penser qu'on n'a pas d'adversité, mais à l'intérieur des matchs, on en a quand même eu, puis on a eu à gérer ça. Fait que c'est ce qui fait en sorte que je pense que ça va nous aider là, pour la prochaine série, même si on n'a pas eu à défendre le match numéro 5.
Crois-tu, Jean-François Grégoire, que l'écart qui sépare le Drakkar de Bécomo des Eagles du Cap-Breton au classement, 109 points pour vous, 81 pour eux, est un juste reflet de l'écart entre les deux clubs qui vont s'affronter à compter de demain soir à Bécomo?
Non, pas du tout.
Je m'attendais pas à ce que tu me dises oui, par exemple.
Ouais. Non, mais les Eagles ont fait des mouvements que personnel dans la période des fêtes. Il y en a beaucoup de profondeur, se sont grossis, puis leur fiche parle pour elle-même. Là, ils ont une très, très bonne fin de saison. Donc, c'est pas la même équipe que nous, on a affronté avant les fêtes. On les a joués chez nous quand même après ça, là, au mois de février, mais je suis pas surpris qu'est-ce qui se passe présentement avec eux. Là. Ils s'étaient battus pour ça. Là.
Ils ont quelques joueurs qui se sont hissés parmi les meilleurs pointeurs là, dans les deux premières rondes des séries, mais au-delà de ça, quelles sont les forces des Eagles du Cap-Breton contre lesquelles vous allez devoir probablement vous défendre?
C'est une équipe qui sont très, très actifs en zone offensive. Beaucoup de mouvements entre les attaquants et les défenseurs. Beaucoup de permutations vers l'extérieur. Ils mettent des rondelles au filet. Sont très, très présents. Ils mettent des rondelles au filet, sont très, très présents. Des gros bonhommes. Donc, ils vont chercher le rebond. Donc, c'est des choses qu'on a vues puis qu'on s'attend. Il y a une bonne équipe. Là, pour moi, c'est pas un hasard là, qu'il ait battu Rimouski et Chicoutimi. C'est sûr que c'était en 5 et en 4. Là, je parle pas du nombre de matchs qu'ils ont gagné, mais ils sont dans une bonne vibe puis ils ont continué sur ce qu'ils ont bâti là, après les fêtes.
Parle-moi de l'ambiance en plein cœur des séries éliminatoires à Bécomo et autour du Drakkar, Jean-François.
C'est très, très plaisant à vivre. Nos matchs ici, là, c'est bruyant. Dès la période de réchauffement, les trompettes sont allées. c'est parti. Puis l'hymne national, la première note, on l'entend plus. Donc, c'est tout le match est comme ça. Fait que non, les gens, on en a parlé il y a quelques semaines, puis les gens sont vraiment, vraiment, évidemment, derrière nous, mais ils savourent le moment à 100%, puis c'est vraiment ça qui est vraiment plaisant, puis c'est vraiment le fun à vivre.
La première qualité ou la qualité première de ton club, le Drakkar, Jean-François?
Le premier mot qui vient en tête, c'est comme pour eux, là, c'est rester calme, gestion d'émotion. C'est le premier mot qui vient en tête. On est en contrôle de nos émotions. On est vraiment, vraiment concentré sur nos actions à nous. On a montré des choses là, face à nos adversaires dans la dernière série. On fait comme tout le monde nos devoirs et tout ça, mais on est vraiment concentré à contrôler nos émotions puis jouer dans nos forces. Puis ça, je pense qu'il faut continuer à faire ça.
Ben, la meilleure des chances au Drakkar, Jean-François, on suit ça avec grand intérêt avec Stéphane Leroux de soir en soir, bien sûr, pour les résumés. Bonne chance à toute la population qui vous appuie et à vos adversaires, parce que j'ai pas le choix, je m'entretiens avec ton opposant dans quelques instants, Louis Robitaille. Merci, Jean-François.
Ben, merci à toi, Mario.
C'était Jean-François Grégoire, le directeur général et l'entraîneur-chef du Drakkar de Bécomo. Place à son adversaire, son opposant maintenant, qui occupait les mêmes fonctions, lui, que Jean-François, mais à Gatineau jusqu'à l'entre-saison l'an passé, qui a hérité de l'emploi d'entraîneur, donc des Screaming Eagles du Cap-Breton, vous l'avez deviné. Louis Robitaille qui est avec nous. Bonsoir, Louis. Alors, Louis, le club est rendu à Bécomo depuis plusieurs heures déjà, j'imagine, en préparation du match de demain.
Ouais, on a pris l'avion ce matin, on est arrivé ici là avant l'heure du midi, puis on a eu une bonne pratique cet après-midi là, fait que ça fait du bien d'être arrivé là.
Là, êtes-vous devenu je dirais pas le club Cendrillon, mais le gros club à surveiller dans ces séries là, le gros club physique un peu moule, un peu le boule des gros clubs de la LNH, Louis, c'est pas mal ça la signature des Screaming Eagles.
Ouais, ben je pense que c'est notre identité là, on est une équipe qui est on veut être dur à jouer contre, on veut être bon là dans les deux sens de la patinoire, mais on croit beaucoup que notre identité là, ça passe par la robustesse, mais le jeu physique, s'impliquer physiquement, mettre de la pression. On a beaucoup de gros bonhommes dans notre équipe, puis je pense qu'on a trouvé notre niche là, à travers ça au cours des derniers mois, puis l'on jette confiance de cette manière-là. Là.
Les gars ont bien adhéré à ça. C'est un travail de longue haleine, les amener à ce que vous êtes en ce moment, c'est-à-dire une équipe de plus en plus difficile à vaincre. Là, comment fait foi votre fiche dans les deux premières rondes, c'est-à-dire une seule défaite en 9 matchs?
Oui, ben écoute, quand c'est arrivé, tu sais, Mario, t'arrives, un nouveau coach, nouvelle philosophie, nouvelle identité que tu veux créer avec ton équipe. L'équipe était bâtie par Sylvain Couturier depuis l'an passé, puis de fil en aiguille à travers les premiers mois, je pense que les gars ont compris où est-ce qu'on voulait s'en aller, puis on a fallu le répéter pour nous c'est quoi la manière de jouer à ces éliminatoires. Je l'ai vécu l'an passé contre les Remparts, je l'ai vécu à travers mes expériences dans les dernières années dans la Ligue d'Hockey Junior du Québec, puis si on voit du succès en série, c'est des séries qui sont éreintantes, c'est 16 victoires, là, ça prend deux mois. Fait qu'il faut jouer de manière physique, faut être engagé des deux côtés de la patinoire. Puis je pense que les jeunes ont adhéré à ça. Puis là, présentement, là, on voit sa porte-fuit, là.
Tu l'as sûrement constaté, et comme joueur, puis sans doute, ça fait quand même longtemps là, que t'es derrière le banc, tu sais, l'usure, il y a toujours une usure potentielle. Constates-tu que d'arriver avec un nouveau groupe, avec peut-être un discours qui ressemble à ce que tu prêchais auparavant, mais avec des nouveaux clients pour l'intégrer puis l'absorber, ça fait-tu une différence que quand ça fait quelques années que tu prêches au même groupe?
Ben oui et non, parce que des fois, quand ça fait 3-4 ans que tu es avec le même groupe, que tu bâtis une reconstruction, que tu arrives à terme, c'est le fun de connaître tes joueurs puis de savoir comment ils vont répondre face à différentes situations. Là, je suis arrivé ici avec un groupe qui était affamé de gagner, qui voulait avoir des résultats qui avaient passé à travers cette reconstruction-là. Puis j'étais pas ici au préalable, je sais que je sais pas c'était quoi la manière de fonctionner ou les discours, mais je sentais vraiment un groupe qui était énergique, qui avait le goût de gagner. Puis ça, c'est un défi qui est le fun pour un entraîneur, là.
Toi, est-ce que tu es arrivé avec quelque chose de nouveau dans ton offre à ces joueurs-là? Bon, l'été, je pense que c'est pour quiconque, là, quand on se fait signifier qu'une association est terminée, que ce soit dans mon domaine ou dans le tien, Louis, c'est jamais une journée heureuse. Fait que, est-ce que l'été, l'entre-saison, en attendant d'obtenir l'offre de Cap-Breton, t'a amené à réfléchir à comment tu voulais rebondir?
Mais tu sais, dans chaque situation, puis je le dis aux joueurs, t'apprends, tu grandis. Dans l'adversité, je pense que c'est là que t'apprends le plus vite, puis t'apprends le mieux, parce qu'à un moment donné, ça te porte à penser qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent. C'est sûr que dans mon cas, l'an passé, on a bâti, j'avais les deux fonctions, bâti une équipe qui aspirait aux grands honneurs, on a fait face au rapport, on a été éliminé en 4, je trouve qu'on a joué du bon hockey, je pense pas que la série, le chiffre 4 reflète la manière que la série s'est jouée, mais en même temps, c'est le résultat, c'est des faits. Puis, tu te poses ça des questions, comment on aurait pu changer ou qu'est-ce qu'on aurait pu faire de différent. Puis, je suis arrivé là avec une approche sensiblement la même, mais en même temps, ben, indirectement, tu penses à ces choses-là. Puis, ça m'aide aujourd'hui à arriver dans le carré d'as puis à être prêt pour ça. Là.
Vous avez gagné 4-1 contre Rimouski, 4-0 contre Chicoutimi. J'ai posé la même question que je vais te poser à Jean-François parce que c'est exactement la même affaire. Considères-tu que ton club a fait face à assez d'adversité dans les deux premiers rounds pour sentir que vous êtes prêt à y faire face si tel est le cas contre Bécomo?
Oh oui, tu sais, maintenant, la série, tu sais, je l'ai dit, l'année passée contre Québec, Mario, mais c'est la même chose cette année. On a gagné en 5 contre Rimouski, mais c'est amplement disputé. On est allé là-bas à Rimouski, c'est un environnement hostile. Tu sais, l'Océanique s'est battu jusqu'à la toute fin. La même chose pour dans la série contre les Saguenayens. On mène 7-3 dans le dernier match. Ils marquent 2 buts. Ça, je pense qu'on a grandi à travers ça. On n'avait pas beaucoup d'expérience de série avant cette année. Beaucoup de joueurs qui avaient gagné en série éliminatoire. Mais je pense qu'avec ces deux victoires-là, ils ont appris que c'est pas facile de closer des séries, gagner des matchs en série éliminatoire, aller jouer dans des buildings où c'est sold out. Je pense que ça nous a préparé à ce qui s'en vient parce que la Bécomo sera pas facile.
Est-ce que vous jouez la carte de l'équipe surprise négligée considérant l'écart de points au classement qui vous sépare 81 pour vous ou 109 où vous vous sentez vraiment d'égal à égal, surtout depuis les transactions, là, d'égal à égal face à votre adversaire, le Drakkar?
Non, on joue aucunement la carte de négligée. Nous, on croit en nous. T'sais, on faut faire fi du bruit extérieur. On s'en vient pas là pour, on veut de l'émission, on veut causer la surprise, on veut gagner, on croit qu'on va gagner, puis on sait qu'on va faire face à l'équipe numéro 1 au Canada, l'équipe qui depuis le début de la saison, est classée comme favorite, mais en même temps, ça va être deux bonnes équipes de hockey. L'autre côté, ils ont la pression de gagner, mais nous aussi, on a la pression de gagner parce qu'on y croit, puis on aime notre groupe, on sent quelque chose de spécial. C'est ça qui rend le Final Four si plaisant, parce que les 4 équipes qui sont en liste, croient leur chance, ont des chances véritables de gagner la Coupe du Président. Maintenant, il faut rester concentré sur notre objectif qui est de performer, surtout dans le match numéro 1 là, demain soir. Là.
Ben, que le meilleur gagne ou que la meilleure équipe gagne, je te remercie beaucoup, Louis, de l'entretien. Pour plaisir, si vous traversez cette ronde-là, ou même si ce n'est pas le cas, de vous reparler après la série.
Yes, ben, merci beaucoup, plaisir.
Merci, Louis. Louis Robitaille, l'entraîneur des Screaming Eagles du Cap-Breton.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
Touché!
Pour les fidèles du sport. Na, 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 na.
De retour aux amateurs de sport et on poursuit notre série d'entrevues avec les quatre entraîneurs des équipes toujours en vie pour le carré d'as des demi-finales de la LHJMQ. Son club a terminé au premier rang de la conférence de l'Ouest avec 102 points en vertu de 48 victoires. On traversé les premières rondes éliminatoires aisément, quoique Sherbrooke a donné un certain challenge avec deux victoires, une série en six matchs. Auparavant, un balayage contre les Sea Dogs de St. John's. Sylvain Favreau, l'entraîneur-chef des Voltigeurs de Drummondville, est avec nous en studio à part ça. Bonsoir, Sylvain.
Bonsoir, ça va bien?
Ça va très, très bien. Tu passais par Montréal. Merci de t'arrêter dans nos studios. C'est le fun de faire ça en face.
Ben absolument. L'année passée, on l'a fait au téléphone avec la proximité qui était moins bonne. Fait que ça me fait plaisir d'être ici.
J'ai eu l'occasion d'aller voir jouer ton club à Drummondville cette année contre Rouyn-Noranda, d'ailleurs. Vous avez vécu une série où Sherbrooke a gagné deux matchs. Puis contrairement aux séries ou à la série entre Baie-Comeau et le Cap-Breton, où ça a été des quasi-balayages, là, 8 victoires sur 9 matchs, penses-tu que Sherbrooke vous a rendu service pour te préparer pour la prochaine ronde d'une certaine façon?
Oui, absolument, d'une certaine façon. C'est sûr qu'on veut gagner tous nos matchs. Dans les séries éliminatoires, on le dit toujours, c'est une saison complètement différente. Moi, je pense que le Phoenix, c'est une équipe qui est bien dirigée, qui a joué avec beaucoup de structure, une équipe très, très travaillante. Ceci étant dit, match numéro 4, on a fait face à un gardien de but qui a joué peut-être le match de sa saison. On a manqué beaucoup, beaucoup de chance. Si on regarde les statistiques avancées, il y avait quand même une nette domination des chances de marquer de notre côté. On part le match 5-1. Et ensuite de ça, le match numéro 5, où on a encore joué un bon match, mais notre gestion de rondelle a pas été bonne. Là, puis on a donné trois gros revirements qui nous ont fait perdre le match, là, entre autres. Là. Fait que, t'sais, quand on a abordé le match numéro 6, ça nous a mis vraiment dans le focus, là, puis nous regrouper, ça nous a permis d'avoir des bons meetings entre match numéro 5 et 6. Fait que pour répondre à ta question, je pense que oui. Je pense que ça nous a recentré un petit peu. Même si on avait connu des bons matchs, c'est pas comme si on avait joué des mauvais matchs ou qu'on avait perdu. On avait joué des bons matchs, mais ça nous a recentré pour vraiment travailler la constance des détails puis ce que ça prend pour gagner. Puis je pense qu'on en a tiré une leçon, puis ça nous a grandi là-dedans.
On voit à quel point il y a une différence dans le jeu puis dans l'intensité de jeu dans les séries de Ligue nationale. Je pense que ça se produit dans toutes les ligues, y compris dans la LHJMQ. Considères-tu que vos forces de saison régulière peuvent demeurer les mêmes en série puis avoir le même succès ou il faut ajouter quelque chose?
Ben c'est sûr que faut s'adapter parce que tu as des équipes qui jouent le tout pour le tout, puis c'est sûr que l'intensité va monte d'un cran, ça c'est sûr et certain. Ceci étant dit, par contre, on joue 68 matchs, puis quand on utilise ces 68 matchs-là, c'est pour bâtir une culture, pour bâtir la façon dont on veut jouer match après match. Puis pour ça, ça ne change pas là pendant les séries éliminatoires. C'est pas comme si y a un interrupteur là que tu mets en marche, que là soudainement tu joues d'une différente façon. C'est important d'être dans la continuité, de continuer dans les bonnes habitudes de travail qui sont directement reliées au système de jeu, etc. Tu sais, puis on parle beaucoup du côté émotif là dans les playoffs, puis c'est dans les séries éliminatoires. Fait que il faut rester quand même sur le cap, puis mais c'est sûr que l'intensité monte d'un cran, puis on peut pas regarder passer la parade.
Non, absolument pas. Bon, Victo Drummondville, il y a une rivalité régionale. Qu'est-ce que ça a donné, les affrontements entre les deux clubs? Qu'est-ce que tu retiens? Puis il n'y a plus rien qui compte dans tout ça, là, mais à l'avant-veille de votre premier match de la série Victo Drummond.
Ouais, c'était des matchs intenses toute la saison, tu sais. Puis étant maintenant au centre du Québec, je viens de vivre la bataille de la 55 et maintenant c'est la bataille de la 122. Je commence à connaître mes routes régionales. Mais je pense que cette série-là, c'est seulement bon pour le hockey au centre du Québec. C'est bon pour notre ligue, ces rivalités-là, l'engouement qu'il y a derrière tout ça. Cette semaine, j'arrive vers les 8h à l'aréna, puis il y avait déjà une grande ligne là pour acheter des billets pour vendredi. Fait que tu vois qu'il y a un engouement. Ça va être une série là qui va être chaudement disputée sur la glace. Puis comme tu l'as dit, en série éliminatoire, c'est une différente saison. Puis on peut pas trop compter ce qui s'est passé pendant la saison régulière. Ça va être deux bonnes équipes qui vont être prêtes à s'affronter.
Considères-tu que ton équipe, peu importe, là, je veux pas mettre la finale trop vite, mais je veux dire, si jamais vous aviez un défi de robustesse, de caractère, que vous êtes, bon, vous avez de l'habileté, vous pouvez défendre, vous pouvez compter, mais sens-tu que vous avez aussi cette carte-là?
Oui, absolument. Je pense que le défi cette année, Yannick Lemay, nouveau DG, Sylvain Favreau, nouveau coach. Puis moi, c'est un petit peu un peu similaire à ma saison passée à Halifax, où on voulait se donner jusqu'à Noël pour voir où on se situe à Noël, quelle sortie. On savait qu'on avait une bonne équipe sur papier déjà, mais c'était de voir à quel point je pouvais soutirer le maximum de cette équipe-là. Puis on s'est très, très bien positionné à Noël. Ça l'a permis à Yannick de faire des transactions puis pour nous améliorer. Mais dans ces transactions-là, ce qui est important, c'est qu'on est allé chercher des gars de caractère et avec de l'expérience. Notamment trois joueurs des Remparts de Québec. C'est sûr que oui, pour eux, c'est des bons joueurs, on s'entend. Mais vraiment, ce qu'on est allé chercher de leur côté, c'est oui, de l'expérience, mais beaucoup, beaucoup de caractère. Puis
tu le sens dans ton équipe depuis leur arrivée?
Absolument, absolument. T'sais, on avait déjà des bons...
Ça a fait lever les autres un peu?
Absolument, absolument. T'sais, on avait déjà des bons leaders. T'sais, on regarde Luke Woodworth, Justin Côté, Ethan Gauthier, Maverick Lamoureux. Mais avec l'ajout de ces gars-là, juste ajouter le côté expérience aussi, tu sais, d'avoir gagné non seulement le trophée Gilles Courteau, mais la Coupe Memorial, tu sais, t'ajoutes des gars qui ont vu neiger, disons, un petit peu, puis... Mais je te dirais aussi, c'est le fun des avoir de mon côté cette année au lieu de coacher contre eux autres.
Tu fais allusion à Maverick, malheureusement, donc n'est pas en uniforme pour les séries, doit subir une opération à l'épaule. Le coût de cette absence-là, peut-être dans les deux premières rondes, n'a pas trop d'effet, mais jusqu'à quel point là que c'est un gros morceau, jusqu'à quel point ça affecte ou diminue peut-être votre équipe?
Ben c'est sûr que perdre un joueur comme ça, ça a un impact. Ceci étant dit, pendant la saison régulière, on n'a pas joué beaucoup de matchs avec Maverick. Tu sais, il y a eu l'opportunité évidemment d'aller avec équipe Canada, championnat du monde junior. Ensuite, il y a eu une mononucléose. Donc, il a manqué beaucoup, beaucoup de hockey cette saison. Fait que,
vous êtes habitué, veux pas, c'est plate à dire, mais c'est ça pareil.
C'est ce que j'allais dire, c'est que d'un côté, c'est une perte énorme. De l'autre côté, on a vraiment appris à jouer sans lui parce qu'il n'a pas été parmi nous tant que ça cette année. Fait que, tu sais, c'est malheureux pour lui de manquer cette expérience-là.
Dans son développement, oui.
Positif pour lui, par contre, parce qu'il va être prêt pour sa prochaine saison, puis il devrait être prêt à jouer. Ceci étant dit, je pense que, je le dis souvent, mais notre équipe de dépisteurs à Drummondville a fait un travail exceptionnel dans les dernières années, puis c'est de voir la profondeur qu'on a, puis de voir les joueurs qui sont capables de rentrer dans l'alignement, malgré ces pertes-là. Je pense que tous ces petits gars-là, ils ont saisi, je devrais dire, leur opportunité. Puis c'est plate de jouer sans Maverick, mais je pense qu'on a fait du très, très bon travail avec les gars qui ont pu peut-être rentrer dans une chaise qui n'était pas la leur, mais ils ont fait un bon travail quand même.
Acceptes-tu le rôle de favori dans cette série-là? Vous avez terminé quand même pas tout à fait à 11 points devant Victo.
Tu sais, je pense que dans les séries, là, tout se joue sur la glace. On a vu en première ronde mon ancienne équipe qui a été battue en 4 matchs contre le Titan d'Acadie Bathurst. Tout peut arriver dans les séries. Puis tout ce que je sais, c'est que c'est deux très, très bonnes équipes de hockey. Qui ont du talent, qui sont bien répartis, et puis ça va donner tout du hockey là, pour cette semi-finale-là dans notre région.
Ben, comme j'ai dit à Louis Robitaille et Jean-François Grégoire tout à l'heure, que la meilleure équipe l'emporte, la meilleure des chances au voltigeur, Sylvain.
Ben, je te remercie beaucoup, puis merci de m'avoir accueilli dans vos studios.
Ben, c'est un grand plaisir. Je vais souhaiter la meilleure des chances également à ton adversaire, Carl Mallette, qui est notre prochain invité, l'entraîneur-chef des Tigres de Victoriaville. Il est d'ailleurs avec nous au téléphone. Bonsoir, Carl.
Bonsoir, Mario.
Es-tu satisfait du cheminement effectué par ton club depuis le début des séries? On dirait que plus ça avance, puis plus vous devenez redoutable.
On est présentement, on a un groupe de joueurs en mission, donc oui, extrêmement satisfait. À ma grande surprise, L'équipe s'est présentée à Rouyn-Noranda, qui avait une excellente équipe. Puis je dis à ma grande surprise, mais en même temps, j'avais confiance en notre groupe. Puis on a joué avec aucun complexe. On est revenu de Rouyn-Noranda avec 2 victoires. Puis depuis ce temps-là, ben écoute, on regarde en avant, on joue de l'excellent hockey, la chimie est bonne, donc le groupe est confiant, donc je suis extrêmement fier du groupe de joueurs que j'ai sous la main.
Sens-tu que la proximité entre les deux villes, les deux clubs, va faire que ça va être une série plus émotive que peut-être tout autre que vous avez disputé ou vous allez disputer?
Elle est différente. Drummondville a une excellente équipe. Deuxième au classement général. Plus de 100 points au classement aussi. Donc, c'est sûr que la proximité, on est à 45 minutes. C'est la rivalité. C'est une rivalité qui existe depuis toujours. J'ai eu la chance de vivre cette rivalité-là comme joueur 2 fois. Je l'ai vécu l'année dernière comme entraîneur lors du premier tour. Nous avions perdu en 5 matchs. Puis, un an plus tard, on a la chance de renouer avec eux, d'essayer de prendre notre revanche. Donc, nos joueurs, tout le monde s'en rappelle, mais on respecte énormément les Voltigeurs, qui ont une excellente équipe. Puis, c'est du bonbon pour le partisan qui va pouvoir suivre sa propre équipe dans les deux arénas.
Tu as joué 5 années avec les Tigres, de 1997 à 2002. Tu es revenu comme entraîneur adjoint puis entraîneur-chef, là, 2012 comme entraîneur adjoint, puis depuis 2020 comme entraîneur-chef. C'est quoi un Tigre de Victoriaville, Carmalette?
C'est, écoute, j'ai grandi à Montréal. Je viens du lac Saint-Louis, puis j'ai été repêché au premier tour des Tigres de Victoriaville en 97, puis j'ai jamais reparti. Je suis ici depuis 97. Qu'est-ce qu'il y a un tigre? Un tigre, c'est quelqu'un qui se présente à toutes les soirs. Détermination, courage, résilience. J'ai joué 5 saisons ici. J'ai eu la chance de remporter comme joueur la Coupe en 2002. Puis lorsque l'organisation m'a donné la chance de revenir comme entraîneur adjoint, j'étais évidemment le plus satisfait, le plus content. C'était comme un rêve qui devenait réalité. Puis 4 ans plus tard, j'ai eu la chance de travailler avec Louis Robitaille, qui est un des 4 entraîneurs dans le carré d'As aussi.
Ben oui.
Énormément. Puis c'est un bon ami. Encore aujourd'hui, on s'est parlé 3 fois. Puis donc j'ai appris de lui. J'ai cru. Je sais c'est quoi Victoriaville. Je sais c'est quoi être un Tigre. Puis à ma première saison, on a eu la chance de soulever la coupe en 2021. À ma première saison comme entraîneur-chef. Puis ben nous revoilà 3 ans plus tard dans le carré d'As. Donc les gens de Victoriaville sont fiers de leur Tigre. Je suis fier. Ma conjointe vient de Victoriaville. Mes 3 enfants jouent au hockey mineur ici à Victoriaville. Donc, pour moi, Victoriaville et les Tigres, c'est la seule organisation que je connais depuis que je suis joueur. Puis c'est la seule organisation que j'ai sur le cœur présentement.
Ben, c'est vraiment une belle histoire. Tu l'as mentionné. Vous avez gagné le championnat à ta première année comme entraîneur-chef, les séries 2021. Or, on n'est pas ben des années plus tard. Puis généralement, ça prend quelques années pour, entre guillemets, se rebooter ou se reconstruire pour arriver au sommet. Donc, on est seulement 3 saisons inclusivement plus tard. Et là, vous êtes dans le carré d'As. Qu'est-ce qui s'est passé aussi bien et aussi vite pour que vous pointiez à nouveau vers le sommet?
Je te dirais que, écoute, on a un terme dans la chambre qui est le partenariat. Puis, c'est Kevin Cloutier, notre directeur général, fait un excellent travail depuis plusieurs années ici. C'est son 3e carré d'As. Au fait, j'en ai vécu un comme entraîneur adjoint. On a gagné le championnat, puis là, c'est notre 3e carré d'As, je te dirais, à peu près entre 8 et 9 ans. Donc, c'est un excellent travail à ce niveau-là. On a une équipe compétitive à chaque saison. Puis, tu sais, au niveau de la structure administrative, les joueurs, le staff, mes entraîneurs adjoints, tout le monde pousse dans le même bateau. L'année dernière, c'était seulement l'an 2 après notre championnat, puis on a eu une saison de 40 victoires. Donc, c'était chapeau à l'organisation, à tous les joueurs avec qui je travaille. Puis, cette année, 43 victoires, carré d'As. Donc, les gens sont fiers, nous, on est fiers, puis on espère continuer encore d'aller de l'avant.
2 bonnes équipes, ça va être bon, je pense, pour le centre du Québec, pour la Ligue, cette série-là. Sylvain Favreau le disait tout juste avant toi, je m'entretenais avec lui en studio, mais qu'est-ce qui ultimement va faire la différence selon toi?
C'est 2 équipes qui arrivent à maturité. Moi, pour moi, les Voltigeurs de Drummondville sont la meilleure équipe au niveau du talent offensif. Donc, c'est une équipe que même s'il n'y a pas son meilleur match, peut marquer 5 à 6 buts. Donc, de notre côté, il faut respecter ça. Nous, on est une équipe qui a un excellent gardien de but, qui a été le meilleur gardien au Canada l'année dernière en Nathan Darvaux. On a une structure défensive mise en place pour l'épauler. Puis présentement, tout le monde adhère à ce système-là. Je te dirais que de contrôler nos émotions, d'être discipliné, les deux équipes ont un bon avantage numérique. Moi, je pense que ça va vraiment jouer au détail, l'émotion, puis à la discipline, que ce soit au niveau de la structure ou au niveau des punitions également.
Penses-tu que l'absence de Maverick Lamoureux, ça affaiblit beaucoup les Voltigeurs de Drummondville ou pas tant?
C'est un joueur que j'ai coaché U16 avec Hockey Québec, puis évidemment, c'est un gros morceau, choix de première ronde de la Ligue nationale. Donc, oui, son absence est énorme, mais ils ont tellement de profondeur, les camarades Diot, Baudry, ils ont tellement de joueurs à caractère qui sont allés chercher les Godettes, les gagnants de la Coupe Memorial de l'année dernière, qui sont capables. Ils sont capables sans lui, ils l'ont prouvé depuis le début des séries. Mais oui, c'est une lourde perte. Puis de notre côté, on a fait l'acquisition de Tristan Luneau à période de Noël. Donc, on aurait bien aimé l'avoir avec nous. Donc, pour nous, le fait de ne pas avoir Luneau et eux de ne pas avoir l'amoureux, ben écoute, c'est de parti pris. Puis tu sais, ce que je veux dire, c'est que c'est assez qui vaut. Puis on aurait bien aimé avoir Tristan puis eux, Maverick. Donc, je suis convaincu que Sylvain, lui, a trouvé une façon d'emmener son équipe au corridor sans Maverick, comme nous l'avons fait sans Tristan Luneau.
T'as bien tourné ça, Carl. Merci beaucoup de l'entretien. Je pense que ça va être vraiment une belle série. Alors, bonne chance aux deux équipes. Un gros merci de l'entrevue, Carl.
Ben, merci beaucoup à vous.
Bye bye. Carl Mallette, l'entraîneur-chef des Tigres de Victoriaville, et ça complète notre tournée avec les quatre coachs des quatre clubs qui vont lutter pour aller en finale de la LHJMQ.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.